Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Rôle des jeunes et des femmes dans le processus électoral, c'est le sujet de ce grand dialogue et nos invités sont Moussa Sidibé, chercheur au Centre de Recherche et d'Analyse Politique, Économique et Sociale, CRAPES, et Madame Traoré Nana Sissako, présidente du groupe Pivot Droit et Citoyenneté des Femmes, également au téléphone Dr Ali Tunkara, sociologue. Je suis Mohamed Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Le rôle des jeunes et des femmes dans le processus électoral, c'est de ça qu'on va parler. On va commencer par Moussa Sidibé, qui est chercheur au Centre de Recherche et d'Analyse Politique, Économique et Sociale. Aujourd'hui, quel est le rôle des jeunes dans le processus électoral?
Merci pour l'invitation. Votre question me paraît un peu, à la limite, un peu courte, à partir du moment où le rôle des jeunes ne doit pas se limiter seulement au processus électoral. On a quand même l'impression de constater amèrement dans le milieu politique du manège général au Mali que les jeunes ne sont sollicités dans le cadre de la gouvernance politique que pendant les élections, ce qui est quand même très très lamentable et très déplorable. Et le rôle théoriquement des jeunes dans le cadre d'un processus électoral ne doit pas se limiter à la mobilisation de ce qu'on appelle l'électorat. Souvent on les considère comme étant des ambianceurs, des mobilisateurs, mais c'est aussi que les jeunes puissent réfléchir à des problématiques de jeunes à soumettre dans le cadre d'un processus électoral aux différentes candidatures qui sont proposées dans le cadre des élections. Pour une raison qu'on va peut-être développer dans le cadre de l'émission, je n'ai pas eu l'impression que les jeunes se sont beaucoup mis dans le cadre d'une réflexion assez profonde à proposer des doléances aux différents candidats. Et on constate que les jeunes sont plus ou moins manipulés par les hommes politiques à gauche, à droite. Je déplore le fait qu'on n'ait pas quand même une certaine synergie d'organisation de jeunesse pour créer une plateforme, peut-être à l'image des femmes, madame pourra nous en parler, pour soumettre des doléances pertinentes qui sont vraiment liées à la vie des jeunes. Et vraiment, spécifiquement à la jeunesse malienne, c'est vraiment quelque chose de déplorable dans ce processus électoral de 2018.
D'accord. Madame Traoré Nana Sissako, vous êtes la présidente du groupe Pivot Droit, Citoyenneté des Femmes. Aujourd'hui, quel est le rôle des femmes dans le processus électoral?
Bon, merci beaucoup et merci vraiment de nous avoir invités autour de ce débat. Je pense que ce débat est d'actualité parce que nous sommes en phase des élections et le premier tour des présidentielles, ce serait dans une semaine. Et je pense que les femmes du Mali ont un grand rôle à jouer. D'abord, en tant que femmes, nous avons pour rôle de sensibilisation, d'information, d'éducation pour pouvoir jouer notre rôle, notre partition en tant que citoyenne à part entière. Et donc, dans ce contexte, je pense que les femmes du Mali, et bien avant, parce que le processus électoral, contrairement à tout ce que les gens pensent, ne se prépare pas à la veille des élections. Je pense que c'est un processus à long terme qui se prépare bien avant les élections. Donc, ce qui veut dire que depuis bien avant, il y a 2 ans, les femmes se sont mobilisées, elles ont commencé vraiment à s'informer, à s'éduquer, à sensibiliser. Et surtout, nous, organisations de la société civile, nous avons été appuyées par des partenaires techniques et financiers, notamment comme ONU Femmes, qui nous a appuyé pour que nous puissions vraiment former, sensibiliser, éduquer les femmes afin qu'elles puissent jouer leur partition à ce processus électoral. Et ce qui nous a amené aujourd'hui, c'est de dire que ça fait longtemps, effectivement, c'est-à-dire dans tout processus, les femmes ont joué leur partition, mais exceptionnellement cette fois-ci, nous nous sommes mises ensemble en tant que femmes du Mali pour porter la voix de la femme malienne autour d'une dynamique, c'est-à-dire un agenda appelé « Agenda des femmes du Mali » et sous la tutelle de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et c'est un espace qui est là, c'est-à-dire un espace des femmes. C'est vrai qu'il y avait plusieurs dynamiques, il y avait des dynamiques au sein de beaucoup d'organisations. Il y avait notamment le NDI qui avait créé une dynamique, il y avait la ministre qui avait créé une dynamique appelée « Mémorandum ». NDI, c'était les priorités des femmes du Mali. Ndathiér aussi avait créé une dynamique. Et tout ça, c'était vraiment autour de la voix de la femme malienne. Comment la femme malienne, la voix de la femme malienne peut porter. Et c'est ainsi que nous tous nous sommes mis ensemble et d'harmoniser toutes nos actions en faire un document unique appelé Agenda des femmes du Mali sous la tutelle du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et nous avons eu son accompagnement et tout l'accompagnement de son staff.
D'accord. Docteur Ali Tunkara, vous êtes sociologue. Alors, le rôle des jeunes et des femmes est-il différent du rôle des hommes ou d'un citoyen tout court dans le processus électoral?
Alors, merci pour la question. Je crois qu'il est quand même important très rapidement de faire un travail d'élucidation lorsqu'on parle du jeune ou de la femme. Il est important de retenir que le jeune étant conçu comme quelqu'un ayant l'âge variant entre 15 et 35 ans, si tel est le cas pour un jeune. Alors, pour tous les cas de la femme, il est très important de comprendre déjà quelles sont nos perceptions du statut de la femme dans nos différentes sociétés. Est-ce que les femmes ont un caractère homogène? Je dis par là, est-ce que les femmes de Bamako, celles des cahiers du Mali profond, ont les mêmes préoccupations? Ce sera qu'on pourrait justement apporter des éléments de réponse tout à fait satisfaisants à cette question. Mais fondamentalement, retenez que jeunes, femmes ou d'autres catégories de la société, il est important de retenir ce nombre d'éléments lorsqu'on parle du processus électoral. Parmi ces éléments, il faut d'abord parler de l'information. J'entends par information tout ce qui est processus de socialisation et d'apprentissage. Et si vous regardez de façon beaucoup plus nuancée, vous allez rendre compte quand même que dans la foulée des élections, il y a un manque cruel au niveau de sociabilité électorale. Quand vous prenez le cas des jeunes, ça a été rappelé par M. Moussa et Mme Taoué d'ailleurs, un nombre important de jeunes, effectivement, ne sait même pas où tuer, ignorerait le programme des élections. Donc, au lieu qu'ils soient des vrais acteurs, ils agissent de façon aveugle. Et de la même manière également, au lieu que ces jeunes et les femmes avancent des arguments, ces deux acteurs, effectivement, ne font qu'applaudir. Hein. Voilà, donc on les voit de façon beaucoup plus marquée. Les jeunes partout où ils sont, les femmes partout où elles sont, de façon majoritaire, applaudissent en réalité. Donc ce ne sont pas des vrais acteurs, mais plutôt ce sont des objets, on a même le sujet de leur représentant. Et dans le même temps, il y a aussi une notion importante. Lorsqu'on évoque la question des jeunes et celle des femmes, c'est aussi cette notion de la citoyenneté. Et quand on ne met pas la citoyenneté déjà, je crois qu'à ce niveau, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes ne seraient pas du tout au même diapason que les politiques. Quels sont les droits et devoirs que les jeunes et les femmes doivent accomplir avant de parler d'élection déjà? Et qu'est-ce qu'ils entendent par citoyenneté également? C'est une question d'identité également. Donc, ce sont des acteurs, hommes et femmes, qui sont plus dans des sentiments, qui sont plus dans l'appât du bien immédiat que dans un vrai processus électoral. Et dans le même temps, on se demande finalement à quand et comment ces jeunes et les femmes pourront même influencer le processus électoral dans le contexte général. Donc vous voyez, finalement, on se rend compte que lorsque les acteurs ne sont pas outillés, lorsque les acteurs sont une sorte de pourvoyeur, si vous voulez, des demandes électoralistes, des politiques, difficilement, on peut parler des acteurs responsables au sens académique du terme.
Donc vous pensez que plutôt d'être acteurs, les jeunes et les femmes, ils sont beaucoup plus utilisés par les hommes politiques?
Incontestablement, si vous regardez dans le contexte malien, on se rend compte quand même qu'il y a trois grandes fragilités qui les caractérisent. La première fragilité, c'est d'abord la fragilité structurelle. Il y a quand même pas mal de partis politiques qui abordent les jeunes et les femmes en tant que mouvement, justement de sensibilisation, en tant que mouvement de mobilisation et non des acteurs susceptibles justement de même accéder aux commandes et de les exercer. Et une deuxième fragilité auquel ces deux acteurs font l'objet également, c'est ce déficit d'ancrage ou de la légitimité. Vous allez quand même constater avec moi qu'en parlant de la démocratie dans le contexte malien, les instances qui sont incarnées par les politiques, on a très peu de femmes leaders dans les différents partis politiques. On a très peu de femmes, très peu de jeunes également dans ces différents partis politiques occupant des positions ne permettant d'accéder à des postes de responsabilité. Une dernière fragilité qui est observable également lorsqu'on évoque les femmes et les jeunes dans le processus électoral, c'est aussi cette difficulté peut-être pour les jeunes, les femmes, vis-à-vis de leur autonomie, notamment financière, vous conviendrez avec moi, notamment les cas des femmes, il y a quand même une dépendance totale vis-à-vis des politiques. Les femmes, si vous prenez le cas de la CAFO, du CNJ, on assiste à une sorte de personnalisation de la structure. Voilà. Comment voulez-vous que des acteurs qui sont aussi traversés par ces fragilités puissent montrer pour des vrais acteurs dans le processus électoral, aussi pluriel, varié et variable?
D'accord. Madame Traoré Nana Sissako, êtes-vous d'accord avec Monsieur Tunkara quand il dit qu'aujourd'hui, les jeunes et les femmes ne sont pas de vrais acteurs, ils sont plutôt utilisés? Est-ce que les femmes maliennes sont utilisées par les hommes politiques?
Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend de quel contexte il le dit. C'est-à-dire, s'il parle d'être utilisé par rapport au processus électoral, ce n'est pas que les femmes seulement sont utilisées. C'est tous les citoyens maliens qui sont utilisés. Parce que quand il parle des campagnes, ce n'est pas que les femmes seulement qui sont utilisées. Les femmes aussi bien que les hommes sont utilisés par rapport aux acteurs politiques. Mais maintenant, pour les femmes précisément, c'est de ça que je veux parler. Je sais, bien sûr, même si que les femmes sont utilisées, il faut aussi reconnaître que les femmes, il y a une conscientisation aujourd'hui chez les femmes. Peut-être que le rôle que lui, il a parlé, c'est-à-dire quand il parle du niveau des partis politiques, que les femmes occupent les postes de second rang, que les femmes ne sont pas au niveau des prises de décision, au niveau des partis politiques, je suis totalement d'accord avec lui. Et je le dis et je le redis qu'effectivement, il faudra que les femmes politiques émergent au sein des partis politiques. Il faudra qu'elles soient... Elle ait confiance en elle-même et qu'elle occupe des postes de responsabilité au sein des partis politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, il y a une conscientisation à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des femmes, il y a une certaine conscientisation. Avant, peut-être que les femmes participaient au processus électoral pour avoir des pagnes, pour avoir des t-shirts. D'ailleurs, l'un des exemples, c'est que les partis politiques et les candidats ont signé un code de conduite pour que les gardiens ne soient pas au devant du processus électoral. Mais qu'à cela ne tienne, les femmes aussi savent le rôle qu'elles doivent jouer. Elles ont été suffisamment, même pas suffisamment quand même, je peux dire qu'elles ont eu beaucoup d'informations, elles ont eu beaucoup de formations, elles ont été éduquées aussi. Et puis ce qu'on dit, où je ne suis pas d'accord, dire que est-ce que la femme de Bamako et la femme de Kaï parlent le même langage? La femme de Bamako et la femme de Kaï, il n'y a pas de différence entre nous. Quand nous devrons occuper des postes de responsabilité, les postes de responsabilité, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau macro, c'est au niveau micro et c'est au niveau miso. On ne peut pas former les femmes au niveau macro et laisser les femmes à la base. Si vous prenez les statistiques aujourd'hui, il y a plus de femmes conseillères au niveau de la base qu'au niveau de Bamako. Non, on ne peut pas dire que nous ne parlons pas le même langage ou bien que nous n'avons pas les mêmes visions. Moi, je ne suis pas du tout
d'accord. Est-ce que vous pensez que les femmes de Bamako et les femmes rurales bénéficient des mêmes chances?
On bénéficie, bien sûr, on doit bénéficier des mêmes chances. Si on bénéficie des mêmes chances, ça c'est autre
chose. Vous l'avez dit, on doit bénéficier, mais est-ce qu'elles bénéficient des mêmes chances?
Oui, elles bénéficient. Non, parce que les chances même pour les femmes, ça pose problème. Les femmes ne bénéficient pas des mêmes chances que les hommes. Ça, c'est un combat. Mais ce combat qui le mène, ce sont les femmes au niveau macro, c'est-à-dire les femmes leaders qui mènent ce combat. Mais une fois que ce combat est gagné, qui en bénéficie? C'est les femmes de la base aussi bien que les femmes du sommet. Donc on ne peut pas dire qu'on ne parle pas le même langage.
Mais est-ce que ces femmes qui sont leaders, est-ce qu'elles représentent réellement ces femmes à la base? Puisqu'on voit très souvent ces femmes même qui sont en train de se battre pour des postes plutôt que les besoins des femmes au niveau local.
Bon, vous savez, il y a toujours... nous sommes tous des humains. Vous savez que, de toute façon, le problème d'intérêt a toujours existé, que ce soit au niveau des femmes ou au niveau des hommes. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que c'est l'une des raisons qui ont fait qu'on a décidé de parler le même langage. Nous nous sommes dit que les candidats élaborent leur projet de société, mais nous, en tant que femmes, nous devrons nous asseoir et réfléchir par rapport aux différents domaines, quelles sont les priorités des femmes du Mali. Et ces priorités, je pense que ces priorités que nous avons dégagées reflètent non seulement les priorités des femmes de Bamako, comme il aimerait le dire, mais aussi les femmes de Kaï et les femmes de Kidal.
D'accord, nous allons parler de ces priorités tout de suite. Est-ce que ce n'est pas le cas, Moussa Sidibé, au niveau des jeunes aussi?
D'être manipulé,
de ne pas être assez responsable pour gérer les situations. Quand on voit même la situation au niveau du Conseil national de la jeunesse, est-ce que le Conseil national de la jeunesse représente réellement aujourd'hui les jeunes?
Il y a un doute par rapport à la représentativité effective du Conseil national des jeunes, de la jeunesse malienne d'une manière générale. Tout le monde sait que, de part et d'autre, tous les pouvoirs politiques qui sont passés par là ont utilisé le Conseil national de la jeunesse pour un moyen de mobilisation de la jeunesse pendant les périodes électorales. Mais là n'est pas forcément souvent mon souci. Mon souci est vraiment une question de conscientisation politique personnelle des jeunes. Parce que après les forats, pour moi, c'est une zone de rassemblement des jeunes qui, pour moi, vient dans un second plan. On ne peut pas se permettre de rassembler des jeunes qui ne sont pas formés politiquement, qui ne sont pas formés d'une manière générale, même sur le plan d'autres questions de la vie. Et les rassembler, c'est facilement manipulable des jeunes comme ça. Et c'est à ce scénario que nous faisons face aujourd'hui. Quelles peuvent être vraiment les raisons principales dans une société comme la société malienne? Une des raisons que moi je dis souvent, c'est vraiment de sociologiquement le rôle de la jeunesse, qui est vraiment considéré comme étant, quand on dit jeunesse, généralement, on considère la personne comme étant pas détentrice de la parole quand les adultes parlent. Sauf que la vie a évolué aujourd'hui de plus en plus avec un accès plus facile à la connaissance. Des jeunes qui ont pu voyager beaucoup peuvent tenir des raisonnements plus solides souvent que certains adultes. Des jeunes qui ont lu beaucoup peuvent tenir des raisonnements plus solides que certains adultes. Voilà. Du coup, pour moi, il faut qu'on revoie complètement le rôle des jeunes dans notre société. Et ce rôle ne peut être revu que quand on conscientise vraiment la jeunesse. Dans sa profondeur, il ne s'agit pas seulement de prendre des jeunes tête de pont.
Êtes-vous en train de remettre en cause les stratégies utilisées pour conscientiser les jeunes?
Complètement. Je dis aujourd'hui que les stratégies utilisées ne sont pas au diapason de la jeunesse aujourd'hui. C'est déplorable de le dire, mais moi je trouve que de plus en plus, les jeunes, leur utilisation, c'est dû au fait qu'ils ne sont pas conscientisés politiquement. Quels sont les moyens par lesquels on peut les conscientiser? Il en existe beaucoup. Je constate que contrairement aux femmes, les jeunes ne sont pas beaucoup organisés en termes d'associations de jeunesse. Le tissu associatif des jeunes n'est pas beaucoup développé. Moi, j'ai l'habitude de dire dans mes discussions avec certains, je dis, autant aujourd'hui on donne des subventions aux partis politiques pour former politiquement les militants. Tout le monde sait que le résultat n'est pas au rendez-vous. Il serait pas mal que nous réfléchissions à la mise en place d'une structure qui subventionne des associations d'utilité publique de jeunesse qui forment à la citoyenneté, calquées quelque part sur le même modèle que le financement des partis politiques, mais vraiment en extrayant vraiment la politique des associations. Parce que le vrai problème des associations au Mali, c'est vraiment l'implication, l'immixion de la politique.
Donc quand on dit association apolitique...
Apolitique,
c'est juste dans les textes, quoi.
Surtout dans les textes. Et quand on dit association apolitique, il faudrait que l'administration veille au respect de ce caractère apolitique pour conditionner éventuellement l'octroi des subventions. C'est un modèle qu'on peut réfléchir sur le temps. Ça peut aider les jeunes à se conscientiser, politiquement, à s'impliquer dans la vie de leur cité, parce que je constate aussi que quand on part dans les quartiers, les jeunes ne s'impliquent pas trop souvent, très très souvent dans la vie de leur commune, de leur quartier. Et en incitant les jeunes à créer des associations avec des subventions pour bien gérer la vie des cités, je pense qu'on pourrait arriver à bout de cette problématique.
D'accord. Docteur Ali Tunkara, quand on appelle des jeunes ou des femmes, plutôt que de leur expliquer ce qu'est leur droit, leur devoir, on les appelle pour leur dire « c'est comme ça que vous devez faire, c'est pour telle personne que vous devez voter ». Est-ce que vous appelez ça de la conscientisation?
Non, moi je crois qu'il est important de comprendre que quel que soit les initiatives de part et d'autre, si l'intelligence qu'il y a de la jeunesse ou l'intelligence qu'il y a de la couche féminine n'est pas suffisamment formée, difficilement ces catégories pourraient prendre conscience comme nous le souhaitons. Ce qui est urgent, que ce soit chez les jeunes ou chez les femmes, il est important de rappeler à Mme Traoré que les femmes du monde réel, si elles ont des liens urgentes, c'est comme accès à l'eau potable. Les femmes du monde rural, elles ont été éduquées d'abord. Les femmes du monde rural cherchent des infrastructures de santé adéquates. Voilà. S'agissant justement de leur engagement réel, effectif, je crois qu'il est urgent que ces deux couches sortent de la table bien facile. Que ces deux couches quittent clairement de ce champ, justement, de l'argent facile, de s'intéresser à la question éthique, de s'intéresser à la question morale, mais pas si compliqué justement à les raccourcir. Je crois qu'il est extrêmement important à ce niveau qu'on mette un accent particulier sur la formation. Prenez les différents établissements, du fondamental au supérieur. S'il y a un manque cruel aujourd'hui chez la jeunesse, qu'elle soit féminine ou masculine, c'est cette absence totale, justement, si vous voulez, de repères du point de vue académique. Donc, c'est pour nous dire que comment voulez-vous construire une nation soucieuse de son avenir avec une population jeune aussi appauvrie du point de vue intellectuel, avec une population jeune aussi accro à l'argent facile, avec une population jeune, justement, qui est des usages numériques sans contrôle. Donc, c'est pour nous dire que dans le contexte somalien, il y a besoin d'une refonte même de la jeunesse féminine et masculine. Et cette refonte a pour nom une éducation réelle. Il faut que celle-ci soit obtenue d'abord. Une fois que l'éducation est obtenue, c'est dans cela que cette jeunesse malienne, elle peut justement se forger une identité. Et laquelle identité, justement, va l'aider à avoir un sentiment d'appartenance à une État-nation, laquelle identité va lui permettre justement d'orienter et même de penser le cours de l'histoire. Mais là où nous tenons aujourd'hui, qu'on soit Bamako, qu'on soit Kidal, s'il y a un dénominateur commun en évoquant les jeunes et les femmes dans le processus électoral, c'est parfois cette distance qui sépare ces deux couches, justement, de l'intelligentsia. Comment voulez-vous que les gens réfléchissent à des projets de long terme? Comment voulez-vous que les jeunes et les femmes qui ne savent même pas le contenu des différents projets de société proposés par les différents candidats, que ceux-ci fassent des choix judicieux et intelligents? Donc, vous voyez, finalement, on se rend compte que cette difficulté à déchiffrer déjà le projet de société des différents candidats pousse pas mal de jeunes et femmes à tomber dans les raccourcis. Donc, c'est pour vous dire que dans les quatre précédents du Mali, pour moi, mon entendement, en tant que professeur d'université, j'ai la ferme conviction que le système éducatif malien il fait partie le plus médiocre de la planète au regard de mes expériences. C'est pour vous dire que la jeunesse aujourd'hui malienne est sérieusement, justement, affectée par cette baisse tendancielle du niveau. Donc, je crois qu'il faut revoir cela afin que cette jeunesse, justement, puisse emprunter des voies orthodoxes, afin que cette jeunesse puisse avoir des repères. Or, aujourd'hui, que ce soit l'élite politique, que ce soit la jeunesse, s'il y a un souci majeur qui doit justement pousser à tout Malien et à toute Malienne de veiller, c'est cette absence commune de repères, tant du point de vue éthique, du point de vue d'anthologie. Or, quand vous regardez les deux institutions qui regroupent la jeunesse et la femme, notamment le CNJ et la CAFO, vous allez vous rendre compte que ces deux structures, à la limite, sont en déphasage total des acteurs qu'elles sont censées les représenter auprès de l'élite au pouvoir. J'entends par déphasage total parce que vous regardez, ce sont ces dirigeants, anciens dirigeants maliens qui vont se retrouver dans le CNJ, ce sont ces femmes leaders d'associations féminines qui vont se retrouver dans la CAFO. Les deux instances sont en déphasage total avec les réalités locales. Les deux instances, il y a un fossé énorme qui les sépare de leur base dont ils sont censés les représenter. Donc, on dit qu'on ne peut pas apporter une solution durable à un tel déficit si on n'arrive pas à creuser de façon sérieuse l'intelligence qui souffre aujourd'hui d'une pathologie du point de vue académique.
D'accord. Madame Traoré, Nana Sissako, êtes-vous convaincue par cette analyse du docteur Tunkara?
Vous savez, moi, j'ai toutes les difficultés pour comprendre ce qu'il dit, parce qu'il y a une autre voix en dessous de ce qu'il est en train de dire. Donc,
il expliquait un peu la différence entre la femme rurale et la femme de Bamako, par exemple, puisque selon lui, la femme rurale se préoccupe beaucoup plus de l'accès à l'eau potable, de l'électricité, puisque les femmes de Bamako ont déjà plus ou moins accès à ces ressources. Et qu'aujourd'hui, il est en train de faire une autre analyse, c'est qu'on retrouve d'habitude les représentants, les dirigeants, les anciens dirigeants du CNJ et de la CAFO au niveau du gouvernement, par exemple.
Oui, bon, effectivement, cette analyse, c'est vrai. C'est-à-dire, quand il dit que la femme, à la base, s'occupe plus d'avoir de l'eau que de s'occuper, alors que la femme de Bamako a l'électricité et a le robinet, je suis totalement d'accord avec lui. Mais pour que ces femmes, à la base, là, puissent avoir ces infrastructures de base, il faudra qu'il y ait des politiques adéquates qu'on met en œuvre pour que ces femmes-là puissent être vraiment mises dans leur... les besoins de ces femmes-là puissent être satisfaits. Je suis totalement d'accord avec lui, le fait quand il dit qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas de repère. Et qu'au niveau des femmes, effectivement, qu'il a parlé de la CAFO. Je ne veux pas trop entrer dans l'histoire de la CAFO. Mmh. Parce que j'ai l'impression, j'ai tendance à comprendre que on assimile toutes les femmes à la CAFO. Et je ne suis pas d'accord parce que la CAFO, c'est une organisation. Une organisation qui représente des organisations de la société civile. Donc, c'est un problème interne à la CAFO. Mmh. Toutes les organisations féminines du Mali ne sont pas membres de la CAFO.
Mais la majeure partie.
Oui, même si la majeure partie, mais toutes ne sont pas membres de la CAFO, je suis désolée. Mmh. Donc, cela ne veut pas dire que quand il y a une crise au sein d'une organisation, que ça doit limiter l'émergence de toutes les femmes du Mali. C'est un problème interne, ça va se régler dans l'interne. Et nous, qui ne sommes pas membres de la CAFO, nous continuons à travailler par rapport vraiment à la promotion des femmes. Et donc, par rapport vraiment à ce qu'il a dit, je suis quelque part d'accord avec lui quand il parle vraiment des femmes de la base. Je suis d'accord que non seulement la femme, pas à la base, parce que souvent, on assimile tout à la femme. On dit il faut les femmes de la base ont besoin d'être formées, les femmes de la base ont besoin d'être éduquées, la femme du milieu rural a juste besoin du minimum, alors que la femme en milieu rural, urbain, n'en a pas besoin. Je suis d'accord pour cette analyse, mais je dis et je redis encore, beaucoup a été fait aujourd'hui.
Comme quoi?
Comme la formation, comme l'information, comme la sensibilisation, comme la conscientisation. Aujourd'hui, le plus petit hameau du Mali, quand tu vas, tu trouveras que les femmes se sont regroupées autour de leur propre intérêt commun. Soit pour des activités génératrices de revenus, même si c'est vrai que nous sommes majoritairement analphabète, mais il faudra aussi reconnaître que la femme malienne aujourd'hui a pris conscience. Au plus petit hameau que tu vas, tu trouveras qu'il y a un petit regroupement de femmes par rapport à un intérêt commun, soit des groupements d'intérêts génératrices de revenus, n'importe ou bien d'activités génératrices de revenus par rapport à leur autonomisation. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas défendre la voix de la femme à un niveau macro parce qu'au niveau de la base, ils ont besoin des réalités que nous, on n'en a pas. Ces réalités-là, il faut aussi les défendre.
Mais concernant l'éducation, concernant l'éducation, si la scolarisation des filles aujourd'hui est devenue un peu une réalité, la déscolarisation est devenue un autre problème. Donc est-ce qu'on a trouvé réellement une solution puisqu'on envoie les filles à l'école à l'âge de 16 ans, 15 ans, au niveau local surtout, elles sont déscolarisées pour se marier. Donc, est-ce que réellement, on a trouvé une solution à ce problème?
Bon, on ne va pas trouver toutes les solutions en même temps. Je pense que ça, ce n'est pas un problème qui incombe seulement à la femme. Ça, c'est un problème qui incombe à la société malienne en tant que telle. Parce que l'éducation de l'enfant, ce n'est pas que la femme. L'éducation de l'enfant, c'est le père, c'est la famille.
Mais elles sont victimes de cette situation.
Oui, elles sont bien sûr qu'elles sont victimes. Nous en sommes conscients. Il y a des statistiques, effectivement, la déscolarisation des filles. Vous-même, vous avez dit par rapport au mariage précoce. Quand vous prenez les statistiques, vous trouverez que quand au niveau de la base, il y a 100 jeunes filles, vous trouverez qu'au niveau supérieur, il y a 50, et au niveau du moins lycée, il y a 50, et au niveau supérieur, vous ne trouverez que 20 filles. 20 filles. Ça, c'est dû à beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs où souvent ces filles ne sont même sont victimes. Et qui leur impose tout cela? Ce sont les personnes, ce sont les grandes personnes, ce sont les hommes et les femmes. Ce ne sont pas que les femmes seulement, ce sont les hommes et les femmes. Et quand il parle de milieu rural, vous verrez qu'en milieu rural, quand on donne la fille en mariage, la maman a le droit de parler? Non! On donne la fille en mariage sans constater sa maman.
Justement, donc qu'est-ce que les femmes leaders font réellement pour changer cette situation? Vous avez parlé des politiques, par exemple.
Pour changer toute cette situation, les femmes leaders ne peuvent que se battre pour qu'il y ait des textes, pour qu'il y ait des lois, pour qu'on puisse appliquer ces lois.
Est-ce qu'on a un problème de textes ou de lois au Mali? Puisqu'il y en a tellement, Est-ce que ce n'est pas un problème de mise en œuvre de ces lois?
Bien sûr, je suis d'accord qu'il y a des textes. Quand on prend des textes au niveau international, au niveau régional et même au niveau national, il y a des textes. Mais effectivement, c'est le problème d'application. Mais en dehors même du problème d'application, il y a aussi manque de textes parce que, par exemple, par rapport au mariage de la petite fille, quand tu prends le code des personnes et de la femme, de la famille, qui te dit que la fille doit se marier à l'âge de 16 ans et que le garçon a 18 ans. Donc, c'est un problème souvent aussi de texte, un problème de discrimination qui est là, qu'il faut corriger aussi. Et ça, ce n'est pas dû à la femme seulement, ça c'est dû à notre société en tant que telle. Donc, nous, au niveau des femmes leaders, nous, on se bat pour que ces textes-là, pour corriger les discriminations qui sont au niveau de ces textes-là. Mais aussi, effectivement, comme tu le dis, en corrigeant même, en prenant des textes par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme disparité, c'est-à-dire comme pesanteur socio-culturelle sur les filles ou sur les femmes, pour pouvoir les appliquer, il faudra qu'elles-mêmes, elles soient éduquées en conséquence. Il faudra qu'il y ait une éducation de base approfondie. Il faudra qu'il y ait une conscientisation à la base pour aller au sommet. C'est-à-dire, en un mot, la démocratie malienne, il faudra qu'on reprenne notre démocratie et que cette démocratie doit être de la base au sommet et non du sommet à la base.
D'accord. Alors, Moussa Sidibé, aujourd'hui, quand on regarde la situation de façon générale, il y a plus de jeunes et d'hommes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes aussi. Je veux dire, il y a plus de jeunes que de vieux plutôt. Et plus de femmes que d'hommes. Mais pourtant, ces couches sont les plus défavorisées. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas soudées suffisamment allié?
Non, je pense qu'il faut partir de deux aspects de cette problématique. Je pense que ces deux couches partagent en même temps des problématiques socio-culturelles d'une manière générale de la société et des problématiques spécifiques, soit par rapport à l'âge pour la jeunesse, soit par rapport au sexe pour les femmes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la question de l'accès aux soins de santé, la question de l'éducation ne sont pas des questions qui sont peut-être après, dans un deuxième temps, dans le cadre d'un raisonnement dans deux temps, peuvent être spécifiques à la jeunesse et plus spécifiquement à la petite fille, mais c'est des problèmes d'ordre général aujourd'hui au Mali. Tout le monde, il faudrait que nous cherchions d'abord la solution à des problèmes d'ordre général. Après, les problèmes d'ordre spécifique liés à la jeunesse, liés au sexe de la personne, peuvent venir dans un deuxième temps, de mon point de vue. Et, d'une manière générale, moi, je constate que l'éducation, dans le cadre de la jeunesse, est vraiment... Je reprends un peu les termes de M. Tunkara, la jeunesse perd complètement les repères. Et ça, c'est pas seulement la jeunesse masculine, c'est aussi la jeunesse dans sa globalité. Ça peut concerner parce que les jeunes d'aujourd'hui sont appelés à être des adultes de demain. Si ces jeunes-là n'ont pas de repères aujourd'hui, quels adultes ils peuvent être demain? Et de mon point de vue, l'éducation joue beaucoup. Quand on dit éducation, les gens ont toujours tendance à penser que c'est l'éducation formelle à l'école. Non. L'éducation dans nos familles perd beaucoup, de plus en plus, de repères. Les gens trouvent les repères aujourd'hui dans l'argent facile, dans le matériel et le confort matériel facile, sans fournir d'efforts. Et l'exemple qu'on donne à la jeunesse n'est pas le bon exemple. Les adultes donnent de mauvais exemples aujourd'hui, de plus en plus, dans notre société. Et les politiques n'en font pas mieux. Et c'est très dramatique pour l'avenir de notre pays. N'en parlons même pas par rapport au niveau de la formation académique. Chaque année, le niveau baisse. Ça, c'est un problème d'ordre général. Après, le problème de l'acte, ça va forcément impacter sur la formation des jeunes, sur leur accès à un premier emploi. Parce que quand on parle de chômage, le chômage touche beaucoup plus les jeunes et surtout les jeunes filles. Mais parce qu'ils ne sont pas formés, ou même quand ils sont formés, ils sont mal formés. Ce qui fait que, ou bien la formation n'est pas adaptée au marché de l'emploi. Du coup, forcément, nous nous retrouvons, comme l'a dit le docteur, à cette fragilité de cette couche sociale, qui fait que, lorsque nous approchons souvent des périodes électorales, c'est facile de les manipuler parce que l'extrême pauvreté gagne du terrain dans ce pays. La solution se trouvera dans le règlement de nos problèmes d'une manière générale. Plus spécifiquement sur la question du mariage précoce, ce n'est pas une question de femmes, c'est la question du mariage précoce. Et on a beau avoir des textes, tant que nous ne formulons pas une masse critique de femmes dans le cadre de leurs droits, dans le cadre de leurs devoirs dans une société, nous ne pouvons pas, même les plus beaux textes qu'on peut adopter sur le plan international, les textes viennent trouver des réalités sociologiques. Les réalités sociologiques sont très ancrées. Pour pouvoir les faire évoluer, il ne s'agit pas de dire « ouais, on va tout laisser en termes de réalités sociologiques ». Non, il faut faire évoluer les réalités avec notre sociologie, avec les réalités de notre période. Cela va de soi qu'il faut qu'on forme beaucoup, il faut lutter beaucoup contre la déscolarisation des filles. Tant que les filles ne sont pas scolarisées jusqu'à un certain niveau, il va de soi que ces filles, quand elles vont grandir, elles vont avoir des enfants, elles ne pourront pas s'occuper de ces enfants et s'impliquer dans la vie de ses enfants au point de ne pas s'opposer à un mariage précoce de ses enfants parce qu'elles sont complètement prises dans cette réalité sociologique.
D'accord. Voilà. Alors, docteur Ali Tunkara, certains pensent aujourd'hui qu'on voit de plus en plus beaucoup de jeunes qui sont candidats, par exemple, à la présidentielle. Pour une seconde fois, il y a une dame qui est également candidate à la présidentielle. Ils pensent que ça, c'est une évolution positive dans le domaine de l'implication des jeunes et des femmes dans le processus électoral. Est-ce votre constat?
Oui, maintenant, il ne faut pas être aussi autant alarmiste. Le fait que nous assistons effectivement de plus en plus de jeunes et des femmes qui se présentent lors des échanges électoraux, c'est une action à saluer, naturellement. Mais ce qu'il faut fondamentalement retenir quant à cet engagement féminin ou de la jeunesse dans le champ politique, c'est surtout de voir comment les politiques maliennes ont appauvri ces deux catégories, jeunes et femmes. Donc ces deux catégories, finalement, se transforment au lieu qu'elles soient de vraies actrices de leur propre vie, elles sont finalement ces deux catégories des objets à la portée des politiques. Donc je crois qu'il faut quand même saluer cela et ces femmes, ces jeunes gens qui arrivent quand même à se présenter lors de différentes élections. Mais fondamentalement, moi je pense qu'à ce niveau, il faut retenir quelques aspects importants. Quels aspects? En premier, d'abord, il faut qu'on arrive à multiplier davantage des espaces délibératifs comme le studio Tamani. C'est quand même important que les jeunes et les femmes arrivent à s'exprimer de façon formelle et informelle. Ces espaces-là, qui sont des lieux de chance substantiels, ne sont pas autant nombreux dans les Camaliens. Et dans le même temps, comme élément aussi, il faut qu'on aille vers un usage numérique. Parce que si vous regardez les jeunes et les femmes aujourd'hui, beaucoup d'entre eux utilisent de façon régulière l'Internet. Donc je crois qu'on peut beaucoup utiliser le numérique également quant à la sensibilisation et quant à la formation même de ces discours. Ça, c'est extrêmement important. Et le dernier élément, c'est aussi de faire en sorte que les femmes et les jeunes puissent résister à l'économie criminelle, puissent résister justement à l'argent proposé par une catégorie d'élite politique, laquelle catégorie seulement a pillé, laquelle catégorie a appauvri toute une nation. Mais moi, je crois qu'à ce niveau, il faut quand même le rappeler. Beaucoup de jeunes étaient ou sont toujours enrôlés dans les différents mouvements extrémistes violents parce que, pour certains cas, il y a toute une même financière derrière. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui corrompus par l'élite politique parce qu'effectivement, l'élite politique elle-même, elle n'est pas orthodoxe. Cette élite politique, elle n'est pas exemplaire. Comment voulez-vous des gens qui ont pillé des ressources du pays? Comment voulez-vous des gens, justement, qui devaient construire des routes, qui devaient réaliser des infrastructures éducatives, sanitaires, tout cet argent étant détourné, que ceci soit orthodoxe quant à la définition des biens malades? Donc, je crois qu'il est quand même très important aussi de ne pas continuer à accuser seulement les jeunes et les femmes, mais je crois que fondamentalement, il y a quand même des acteurs cachés qui seraient derrière toutes ces malversations financières, qui seraient derrière le pourquoi un nombre important de jeunes et de femmes tombent dans ces raccourcis. Il est à saluer les quelques-uns qui ont quand même le courage de se porter candidat.
D'accord.
Depuis de se porter candidat, il est quand même sûrement important que ces deux catégories soient informées, que ces deux catégories soient un même orthodoxe et tout à fait aussi élevable dans le reste de la population.
D'accord, Madame Traoré Nana Sissako, vous parliez des priorités pour les femmes. Quelles sont ces priorités selon vous?
Bon, les priorités des femmes aujourd'hui, elles sont énormes. Hein. Ces priorités, nous les avons définies à partir des domaines, c'est-à-dire les domaines de développement, notamment par rapport à la femme et politique, par rapport à l'accès des femmes à la justice, par rapport aux violences basées sur le genre et par rapport à l'autonomisation économique de la femme, par rapport à l'éducation de la femme, par rapport à la femme et santé, et par rapport même à la femme et sport et culture, et aussi par rapport aux dividendes démographiques. Donc, c'est-à-dire tous les domaines de développement, en quelque sorte. Nous avons pris ces domaines, mais tous ces domaines sont en corrélation avec la politique nationale genre. Et donc, à partir de ces domaines, nous avons des statistiques qui nous permettent vraiment de voir que le fossé de disparité de l'indépendance à nos jours, qu'il faut aussi, malgré qu'il y a des politiques, comme il le disait et comme le docteur disait, malgré ces politiques-là, le fossé de disparité, elle est trop profonde. Donc, ce qui nous a permis d'identifier des priorités par rapport à chaque domaine.
D'accord. Moussa Sidibé, vous pensez-vous que ces priorités reflètent réellement les besoins des femmes aujourd'hui, dans le cadre de leur implication dans le processus électoral?
Oui, moi je trouve que je n'ai pas eu accès à ce document. J'aimerais bien regarder ce document et puis l'analyser. Madame l'a dit clairement, quand on analyse ses priorités sont d'ordre général et spécifique à la femme. L'accès à la santé est une question qui concerne toute la société d'une manière générale. Quand on connaît aujourd'hui le temps minimal entre deux hameaux, un hameau et aujourd'hui au Mali est le premier point de dispensaire, on se pose vraiment des questions sur les statistiques d'accès aux premiers soins de santé. La deuxième priorité, c'est vraiment l'éducation d'une manière générale de la jeunesse. Je pense que si nous ne mettons pas l'accent sur une bonne formation de notre jeunesse, nous courons un grand risque pour l'avenir de notre nation. Moi, j'ai l'habitude de dire à des amis avec qui je discute, je dis, si on ne fait pas attention, dans quelques années, nous allons pouvoir recruter même dans notre administration des cadres venant de l'étranger. C'est un peu trop fort de le dire, mais c'est aussi un peu la réalité. Le monde va vers de plus en plus vers l'excellence. Et si nous ne rentrons pas dans ce monde, il va de soi que ceux qui nous devancent viendront prendre notre place, même chez nous.
D'accord. Pour que les jeunes aussi et les femmes puissent mieux jouer leur rôle dans le processus électoral, quelles doivent être leurs priorités pour qu'elles puissent mieux jouer leur rôle?
La priorité, déjà, je pense qu'on a déjà dépassé ce cap. Ils devraient être formés d'abord avant de jouer bien leur rôle. Et le fait qu'ils ne sont pas formés, qu'ils sont manipulés aujourd'hui, le rôle n'est plus bien joué. Nous ne pouvons que déplorer ce cas aujourd'hui. Et maintenant, est-ce que dans l'avenir, il faudrait penser vraiment à bien former les jeunes et les jeunes femmes, d'une manière générale, pour que ce rôle puisse être convenablement joué dans le cadre des processus électoraux à venir. Sinon, aujourd'hui, il est vraiment déplorable de constater que les jeunes ne jouent pas positivement leur rôle dans le cadre de ce processus. Ce qui fait que les hommes politiques les utilisent, mais les priorités ne seront pas prises en compte dans les gouvernances à venir. Tout le monde parle de la question jeunesse, de la question femme dans les projets de société, mais comme les jeunes ne sont pas, ou les femmes ne sont pas souvent impliquées dans le cadre de la rédaction de ces projets de société, même dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets de société, il va de soi que voilà, nous sommes complètement à côté de la plaque en termes de vrai rôle des jeunes et des femmes dans le cadre du processus.
D'accord. Docteur Ali Tunkara, quelle solution face à tous ces défis?
Rapidement, il faut de l'éducation. Parce que là, si vous prenez le jeune et les femmes majoritairement, même ceux-là qui ont fréquenté l'école classique, l'occupé étant mal coutumé. Comme deuxième solution très rapidement, il faut impliquer les valeurs de la transparence et l'éthique chez les acteurs. Prenez les jeunes aujourd'hui, prenez les femmes du DEM. Vous allez vous rendre compte que la transparence est quasi absente. La question de l'éthique, on ne s'en moque pas. Dernier aspect à développer auprès de ces deux acteurs, justement, c'est de faire en sorte que ces deux acteurs s'identifient à l'État-nation et non de s'identifier justement à un homme, non de s'identifier justement à un environnement, de s'identifier à une nation ou à une ethnie. Il est quand même extrêmement important aujourd'hui, si vous regardez, si vous suivez les différentes rhétoriques des politiques, notamment celles prononcées par les jeunes et les femmes, vous allez vous rendre compte quand même que l'ancrage à l'État-nation n'est pas suffisant. Donc il faudrait que les jeunes et les femmes
pour mieux jouer leur rôle, d'accord. Il nous reste 1 minute 30 secondes pour M. Sidibé et Mme Traoré. Aujourd'hui, quel est le message que vous adressez aux jeunes?
Le message que moi j'adresse aux jeunes, c'est vraiment un message de se remettre en cause, de revoir notre manière de voir notre nation pour nous impliquer davantage dans sa gestion publique, mais pas de cette manière.
D'accord. Le même message aux femmes?
Oui, effectivement, c'est le même message. Hein. Le message que je lance aux femmes, c'est de se battre pour un Mali uni. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin, un Mali en paix et un Mali apaisé.
D'accord.
Et je pense que si nous avons un Mali aujourd'hui en paix, mais un Mali uni, je pense que ce serait pour le bonheur de toutes les femmes et de tous les hommes et de tous les enfants de ce pays.
D'accord, c'est ce qui met fin à ce débat avec comme invité Dr Ali Tunkara, sociologue, Mme Traoré Nana Sissako, présidente du groupe Pivot Droit et Citoyenneté des Femmes, et Moussa Sidibé, chercheur au Centre de Recherche et d'Analyse Politique, Économique et Sociale, CRAPES. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara, la régie vidéo Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue,
Sigi Kafoba,
Edouani
Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri,
Haloud Mouli.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.